RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos.
Putain, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassine. C'est toujours assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se t'affirme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Jérôme Roten et de Daniel Riolo, Raphaël Pesanti nous a rejoint, il est préparateur Montoile.
Samuel Boutoile.
Samuel Boutoile. Salut Raphaël.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous.
Merci de m'accueillir.
Alors, il est préparateur mental, pour que ce soit bien
donc
clair.
Donc, ça n'est pas le fils, pas le frère, pas le
aucun
cousin.
Aucun lien.
De notre
aucun
ancien,
lien, tu
de notre
nous
ancien boss.
Non. Aucun
un cousin éloigné, peut-être.
Ah, d'accord. Ah. Donc, il y a peut-être un lien.
On ne sait pas.
Vous n'êtes pas sûr, du coup.
Non.
T'es de Nîmes aussi?
Comment?
T'es de Nîmes?
Non, l'Ardèche. Ah. Pas très loin.
Ah, c'est pas très loin, cela dit. Il y a peut-être un lien.
Peut-être, c'est possible. Oh là, il y a eu un.
Cousin.
Je pense qu'on.
Il y a une entourloupe là-dessus.
On nous a pas tout dit, je crois.
Ouais.
Je pense qu'on ne nous dit pas tout dans cette histoire après. C'est comme ça, c'est le.
Tu maîtrises pas
ça la télé. Anthony Reich également nous a rejoint. Bonsoir Anthony.
Salut messieurs.
Alors si Anthony est là, c'est parce que demain, c'est le début de la Coupe du Monde féminine, voilà, qui débute en France. Elle se disputera jusqu'au 7 juillet prochain, demain 21h. Premier match de cette Coupe du Monde, ce sera au Parc des Princes, France-Corée du Sud. Alors toi, t'as suivi la préparation notamment des Bleus.
Oui, au plus près.
Bon, comment tu le sens?
Eh ben, je les sens certainement plus forte que jamais, un groupe qui est beaucoup plus soudé que par le passé, on va dire que les petites guerres de clans qui pouvaient y avoir il y a quelques années ont un peu disparu, un mélange de générations totalement différent, des joueuses cadres à maturité, les Amandine Henry, les Wendy Renard, etc., qui ont 29-30 ans et qui ont beaucoup plus gagné ces dernières années, et puis une sélectionneur qui n'a jamais été aussi sereine que maintenant, parce que on connaît un peu les difficultés de Corinne Diacre avec les médias, sa réserve.
Et
aujourd'hui, j'avais l'impression qu'elle était là où elle voulait être depuis 2 ans, à l'aube de ce mondial.
Ok, donc tu le sens bien, quoi.
Elles sont bien parties en tout cas. Elles ont bien préparé.
Ah, elles ont pas commencé. Elles sont bien parties.
Non, mais
il y a eu des soucis.
Ça s'est réglé. Physique. Les soucis physiques, là, les blessures de Jenny Le Sommer, des Lyonnaises en fait,
ouais,
tout simplement,
ça, ouais.
Qui sont arrivées un peu rôties quand même de cette finale de Ligue des Champions.
Mais dis-moi, Anthony, en fait, quand on dit bien parties, elles sont dans de bonnes dispositions. Je suis d'accord avec toi. Tout se passe très bien, tout ça. Mais finalement, est-ce que elles pourraient être très bien, très en forme au sein d'un groupe totalement épanoui? Et finalement, ne pas gagner parce que tout semble un petit peu tourner autour de ce quart de finale contre les États-Unis, quoi.
Bah,
c'est un peu le virage.
C'est le virage.
Et elles peuvent très bien
c'est
perdre ce match-là, fin de l'histoire, sans que ça remette en cause ce que tu viens de dire. Et
tout
on sait
fait.
Que les États-Unis, c'est
ce qui te fait c'est de
favori au monde.
Alors après, ça peut ressembler, et même pour l'engouement, pour tout ce qui se passe autour. Ça peut faire penser à 98, parce que tout avait réellement démarré après le quart de finale contre l'Italie, dans un match ultra tendu. Ça, on pourrait retrouver ça, un match qui va au péno, pareil et tout. Et derrière, effectivement, là derrière,
tu
normalement plus rien ne les arrête après, quoi. Mais ce match-là, c'est là le révélateur.
98,
hein?
98, tu joues le Brésil en finale.
Donc, oui, mais le quart avait été, ils te disent tous, un virage énorme parce que c'était le match le plus serré, le plus tendu.
Mais sauf que là, tu joues, si ça se passe comme c'est prévu, en quart de finale, tu joues la meilleure équipe au monde.
Mais normalement, après, plus rien ne t'arrêtera.
Il y a une chose nouvelle aussi, c'est qu'elles affichent leurs ambitions. Ça, c'est récent. Elles ont jamais fait ça avant, les autres tournois.
Non, pas de façon aussi claire. Ça, c'est,
après, ça, façon, ça, 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 elles, ça peut être à double ambitions. Tranchant, je pense, parce que ça peut être une pression supplémentaire pour elles, étant donné que c'est en France. Donc, et puis, peut-être, de trop afficher ses ambitions, de trop le répéter, c'est peut-être, alors, peut-être qu'elles essaient de se convaincre,
on va écouter Corinne Diacre, la sélectionneur des Bleus, justement, là-dessus. Elle a été interrogée, justement, sur les ambitions des Françaises. Quelles sont-elles pour cette Coupe du Monde? Réponse de la sélectionneur, c'était aujourd'hui en conférence de presse.
Rien aujourd'hui ne me permet de dire que l'équipe de France va passer le quart de finale et faire mieux que 2011. On a cette ambition maintenant, on peut pas nous reprocher d'être ambitieuse, en tout cas je ne l'espère pas. Je pense qu'il faut y aller étape par étape, on le sait, déjà faut sortir de la poule. Si déjà on fait pas ça, c'est même pas la peine de parler des quarts de finale, donc qu'on reste sérieuse et humble surtout. C'est vraiment quelque chose qui nous anime de toute façon, mais pouvez compter sur nous, on a vraiment cette ambition de relever le défi, oui.
Elle est quand même hyper prudente dans ses déclarations, Corinne Diacre, en revanche.
Oui, elle est hyper prudente, mais moi j'ai écouté par exemple l'interview là sur Téléfoot dimanche dernier. Là je vais rentrer dans la prépa mentale. Elle dit il ne faut pas rater le 7 juin. Donc je sais pas si vous savez, mais l'inconscient il comprend pas la négation. Donc si vous enlevez la négation sur cette phrase là, bon c'est des détails, je sais, mais c'est quand même un tournoi c'est fait de détails comme ça.
Explique-moi ça, vas-y redis-moi.
Il ne faut pas rater le match de préparation du.
Donc toi ton inconscient il comprend, il faut rater, c'est ça?
Voilà. Donc si t'enlèves la négation, voilà. Et il y a il faut. Donc il faut c'est une notion d'obligation. Donc la notion d'obligation, ouais. elle rajoute de la pression.
Comment t'aurais dit ça autrement alors?
Il faut réussir le match d'entrée.
Il faut gagner le 7 juin.
Enfin, on va réussir notre premier match, on reste positif.
Voilà. D'accord.
Il faut pas rater l'inconscient. Bah, ça c'est pas moi qui le dis. Hein.
Mais c'est de la psychologie d'ailleurs.
C'est les neurosciences. Ouais. C'est ce qu'on appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc c'est des choses dans les discours des coachs qui sont quand même importants. Même oui, c'est pas parce qu'elle a dit ça qu'ils vont rater, bien sûr.
Non, mais t'as raison dans ce que tu dis, parce que
c'est un élément de langage.
Je me rappelle les peu de clubs où on peut te conseiller en communication, parce qu'il y en a pas beaucoup, hein, t'es livré un peu à toi-même quand t'es joueur. Souvent, on te le redit. On te dit, voilà, soyez positif, ne parlez pas de défaite ou il ne faut pas prendre de but ou tu vois ce truc là. Je sais que par exemple on parlait de notre épopée avec Monaco, Didier Deschamps pendant 3 ans, nous c'était son discours, c'est arrêter de me dire il faut pas prendre de but, on peut en prendre un et au pire on en marquera 3 quoi, ou on en marquera 2.
Ou le gardien qui dit ça, il faut pas que je prenne de but, non, je vais les arrêter.
C'est et puis quand on prend un, tu fais quoi? Non mais c'est ça.
Bah il faut passer à autre chose.
Tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé justement depuis 4 ans, finalement, depuis ce quart de finale, justement, Anthony?
En tout cas, depuis 2 ans, sûr. Ça, c'est sûr. Parce que l'Euro 2017, c'était une fin de cycle. Il y avait des joueuses qui étaient un peu en fin de course.
C'était
comme
catastrophique, surtout.
Et c'était, en termes de jeu, c'était très compliqué. Je crois, un but dans le jeu
L'Euro
2017, là, aux Pays-Bas. Un but dans le jeu, il me semble, sur toute la compétition. C'était vraiment très compliqué. Et depuis 2 ans, elles ont...
Et qui dirigeait l'équipe?
Olivier Schofny. Qui est aujourd'hui l'entraîneur du PSG féminin. Depuis 2 ans, elles ont travaillé différemment avec Corinne Diacre. C'est totalement différent. La méthode a été poussée à l'extrême, notamment au niveau de la rigueur des entraînements, de l'exigence, de l'intensité, ce qui pouvait parfois ne pas être tout le temps le cas. En tout cas, pas à ce niveau-là. Elles ont fait une préparation. J'ai rarement vu l'équipe de France féminine faire une préparation si dure physiquement. Du fractionné à 7h du matin à jeun.
Et puis elles sont regroupées tôt, hein, quand même.
Début mai, en fait. Début mai. Ouais. D'abord un petit groupe. Elles étaient 14. Voilà, les Lyonnaises n'étaient pas encore là. Et puis les Lyonnaises sont arrivées après la victoire en Champions League dans la deuxième quinzaine de mai. Donc c'est vrai que cette première partie de préparation à 14 a ressoudé les liens. Et bien Corinne Diacre a changé un petit peu de comportement aussi, je dirais physique, dans les conférences de presse. Elle s'est un peu plus lâchée. Elle a découvert certaines joueuses qu'elle avait depuis longtemps. Mais
est-ce qu'elle a toujours cette image un peu extrêmement tendue?
Tendu. Pas très agréable, il y a eu des conférences de presse où on se demandait ce qui se passait.
Blanc, elle était
aujourd'hui là, c'était la meilleure conférence de presse en termes.
Tu rigoles, aujourd'hui.
On a galéré pour trouver un son où c'était un peu, tu vois, où il y avait du contenu, il y avait un peu de forme.
Aujourd'hui, c'était carnaval.
Elles sont restées non-stop à Clairefontaine.
Alors au début, elles ont fait une toute petite semaine à Perros-Guirec en Bretagne. Donc c'était plutôt stage de cohésion.
Très bel hôtel.
Très bel hôtel.
Tu es allé?
J'y suis allé.
J'adorais les stages de cohésion.
C'était sympa. Au bord de mer, très beau. Très bel hôtel.
C'était sympa les stages de cohésion. J'aimais ça quand l'entraîneur te disait allez un stage de cohésion. Là, c'était. On appréciait.
C'est-à-dire?
Bon écoute,
la grande cohésion.
C'est pas mal, c'était du Neymar, mais niveau Ligue des Champions.
On va accueillir Adèle, tiens, qui nous a appelé, qui va suivre cette Coupe du Monde féminine, justement. Salut Adèle.
Voilà. Excusez-moi, j'appelle juste les écouteurs, vous m'entendez?
Oui Adèle, voilà. Bien sûr.
Ah, je pensais à Adèle, une fille, la tante Adèle.
Quoi. Mais non. Daniel, à chaque fois tu me fais le même coup.
Non, mais de toute façon, il y a toujours les mêmes vannes, il est relou.
Ah, il est chiant.
Non, mais,
j'ai déjà fait celle-là.
Ah oui.
Oh non, toi, répéter les mêmes vannes, jamais, Daniel Riolo, relou.
T'es sûr?
Bon, écoutez-moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais suivre avec attention cette Coupe du Monde féminine, la première en France. Et donc, j'espère qu'elles vont nous faire le coup de France 98 et qu'elles vont remporter leur premier titre. Et je suis un grand fan du... Mais non, je rigole. Honnêtement, bon, les gars, désolé pour Adrien du Standard. J'espère qu'il va pas m'en vouloir. Je lui dis que je voulais parler de la Coupe du Monde. Mais je n'ai pas dit que je voulais dire que j'allais pas regarder cette Coupe du Monde. Et que honnêtement, je comprends pas comment ça se fait que vous forcez à en parler, Daniel et Jérôme.
Ouais.
Ça se voit, ça s'entend que vous voulez pas en parler, ça se voit qu'on
mais
vous force.
Mais pourquoi tu dis ça? On va faire les matchs, on va commenter les matchs sur RMC.
Oui, mais parce que vous êtes payé, c'est votre boulot.
Mais non,
sérieusement,
mais alors...
est-ce que si vous avez le choix,
non, moi je vais te répondre. Je vais te répondre déjà, payé ou pas. Moi, on m'oblige pas à faire des choses. Si j'ai pas envie de faire des matchs ou ça m'intéresse pas, je vais pas venir faire une émission.
Et ça, je te le confirme.
Et c'est toi, tu rêves.
Ce qu'il veut. Et ça, je te le confirme.
C'est lui la vedette. Voilà, ce qu'il veut.
Tu fais une fausse idée, toi. Désolé, Jérôme.
Voilà, excuse-moi.
En tout cas, non. Non, mais en tout cas, moi, je vais vous donner mon avis personnel.
Non, mais attends, c'est surtout Adèle.
Moi, je m'en fous de ma réponse, Adèle.
Oui. Mais Adèle,
non, mais c'est surtout.
Je t'en fous,
toi.
Pas grave, Adèle.
J'ai pas compris ce que vous m'avez dit.
En fait, Daniel voudrait te répondre, vas-y.
Non.
Vas-y. Non, mais si, c'est
non, mais attendez, mais comme je vous disais, moi, écoutez, je suis un grand fan de l'after de la première heure. J'écoute depuis l'époque Alexandre Delperrier. Donc, je sais pas si ça vous parle, c'était il y a très longtemps. Mm-hmm. Et là, je me suis dit, non, l'after, ils vont pas nous faire ce coup-là, ils vont pas nous parler de la Coupe du Monde. Enfin, bon, vous êtes obligés de diffuser et parler de la Coupe du Monde féminine, mais honnêtement, on a la Ligue 1, on a le championnat de France.
Ah non, il y a plus de Ligue 1, justement, là.
J'ai pas compris.
Il y a pas de championnat, c'est fini là.
Non mais c'est fini, bah voilà, on prend des vacances et puis on attend le début de saison et voilà. Et puis
tu veux refaire la programmation en fait, c'est ça le délire.
En fait, si vous voulez, en fait, il y a rien de passionnant dans le foot féminin. Je suis pas misogyne, j'ai rien contre les filles. Elles peuvent jouer au foot, elles peuvent avoir leur championnat. Il y a pas de souci. Mais de là à ce que ce soit autant médiatisé et qu'on nous force en fait, on nous fait le forcing. Maintenant, je sais que la Coupe du Monde c'est un produit, que ça doit être vendu. Mais quand t'achètes les magazines, c'est maintenant dans les pubs de télé, ils vendent des télé écrans plats, bah maintenant c'est plus des joueurs de foot, c'est des joueuses de foot. En fait, il y a l'impression qu'on nous force à tout prix à regarder cette
Alors, Coupe du Monde. Alors Adèle, je te rassure. Alors, je te réponds globalement. Moi, honnêtement, je l'ai dit l'année dernière, tu sais, quand je m'inquiétais, je sais pas si t'écoutais l'émission, je disais, mais ça veut dire que, donc je disais l'année dernière, donc je disais dans un an, mais réellement, il va falloir qu'on s'intéresse à ça, il va falloir s'y mettre, machin, si cela.
Bah, on y est.
Donc, on y est. Alors, je te dis la vérité, si ça passe, si j'ai autre chose à faire, je regarde pas, mais là, pour la Coupe du Monde, et je te le dis vraiment sincèrement, il y a de grandes chances que je regarde les matchs de l'équipe de France, et qu'en fait, et je m'y intéresse pour voir si c'est intéressant. Tu vois, j'ai envie de faire l'effort d'abord parce que effectivement, comme tu dis, ça fait aussi partie du taf de s'intéresser à tout ce qui fait le foot. Après, attention, si tu me dis, mais là n'est pas la discussion. Si tu me dis, tu préfères regarder la Copa América ou la CAN et tout, évidemment, mais on va pas s'amuser à faire un classement. Et tu as peut-être raison aussi, si ça n'était pas en France. Probablement qu'on en parlerait moins.
Mais ce qui est pas vrai, Daniel. Parce que moi, regarde.
Mais la dernière fois, on s'était intéressé aussi.
On s'était intéressé, c'était au Canada.
Ouais, il y a quatre ans.
Il y a quatre ans au Canada. Non, mais au Canada, moi, je me suis sur au départ.
Franchement, je vais regarder, Adèle. C'est pas, t'inquiète pas, on va pas. Et alors,
bah,
et très
mais
franchement,
moi, je vais regarder par curiosité, mais en fait,
ne t'inquiète pas quand tu dis qu'on va te forcer et tout. Il y aura aucun flic qui va venir chez toi pour t'obliger à regarder.
Ouais, c'est ça.
Tu fais ce que tu veux. Tu fais vraiment ce que tu veux.
Je vais peut-être aller au stade. Je vais peut-être aller au parc voir un match pour voir ce que ça donne en réel, parce qu'en réel et à la télé c'est comme le rugby, je m'intéresse pas du tout au rugby, mais bon, moi j'habite pas loin de Colombes, et avant, si tu veux, il y avait le stade français où c'est le Racing 92 qui jouait pas loin de chez moi, et j'ai toujours voulu aller voir en vrai ce que ça donne une fois, histoire de me dépuceler. Mais voilà, c'est le forcing qui est fait qui m'agace un peu, parce que ça fait overdose de foot, il y en a trop. Tu sais, t'as tous les championnats.
Ouais, mais personne t'oblige à regarder, hein.
Non, mais moi, c'est surtout Adèle, c'est ça, je comprends pas. Et que t'aimes pas, que tu le dises, y a pas de souci, t'as pas besoin de passer d'ailleurs.
Mais personne
t'oblige. Entre les mailles du filet du Standard, on peut en discuter. Après, de parler à la place des gens, non, c'est pas parce que t'aimes pas.
Exactement.
Que
nous, on se force ou qu'on aime pas. Moi, je prêche pour ma paroisse. Moi, je dis juste que moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on me force à m'intéresser à cette Coupe du Monde. Voilà. Et maintenant, vous savez très bien qu'après une Coupe du Monde, voilà, il y aura de plus en plus de filles qui vont prendre leur licence, on va plus en parler, ensuite on va nous imposer le championnat. Moi, personnellement, j'espère que l'équipe de France aille le plus loin possible. Moi, je suis supporter de je suis français, donc je m'intéresse à toutes les équipes de France. Même les sports que je connais pas, quand on a peu de champions, quand on a des champions, tant mieux. Voilà. Maintenant, ça fait un peu comme le handball il y a quelques années, franchement. personne s'intéresse au handball et dès que c'est la finale, tout le monde regarde. Ça fait un peu hypocrite.
Bah, tu sais, on a ce discours-là sur le foot aussi.
Mais je comprends pas, après tout, qu'est-ce que ça peut te faire, quoi. Je comprends pas pourquoi t'as l'air un peu touché par ça. Tu t'en fous, Adèle.
Il y a pas d'hypocrisie là-dedans. Je veux dire, si t'es fan de sport, déjà, passionné de sport, pour moi, c'est pas le même football, ça c'est sûr, et c'est pas que pour moi, hein, tout le monde, mais tu peux très bien apprécier, et encore plus quand il y a des compétitions comme ça. Le match de vendredi, ça va pas certainement le meilleur match, le plus grand match de la compétition, mais ça va monter crescendo, tu verras, le match contre la Norvège va être intéressant.
Oui. Merci Adèle de nous avoir appelé. En tout cas, est-ce que tu sens toi justement qu'il y a un vrai engouement, comme le dit Adèle? Ou alors il y a du forçage aussi.
Moi, je vais te donner plusieurs chiffres. Au Parc des Princes, ce matin, pour la conférence de presse, il y avait 130 journalistes accrédités. 70 journalistes en liste d'attente qui ne pouvaient pas rentrer en conférence de presse. Demain, nous serons 200 pour le match d'ouverture. Du jamais vu sur une Coupe du Monde. On est à la capacité maximale d'accueil du parc. Donc ça veut pas... Les journalistes, ils se forcent pas. S'il y a autant de médias, c'est qu'évidemment, ça fonctionne. Et puis au-delà de ça, que cela soit sur les réseaux sociaux, les joueuses qui ont énormément de messages depuis le début de la prépa, elles n'avaient jamais connu ça. C'est inédit. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, et c'est pas forcé ou etc. C'est juste que les Français ont envie de voir et ont envie de supporter cette équipe de France.
Tiens, on va accueillir Hugo, tiens, qui nous a appelé lui aussi.
Après Adèle, là où Adèle, il y a aussi, et là, ça me fait penser un peu au propos de la ministre et tout ça, le côté quasi, si tu regardes pas, t'es misogyne, ou si tu regardes pas, t'es un con. Ça, je déteste ça. Et les propos, mais totalement dénué de bon sens de la ministre l'autre fois. Alors ouais, il faut qu'on fasse le maximum pour le marketing, pour la communication. Il faut que les filles deviennent légales de l'homme. Ça, on avait l'impression d'un ministre d'un ex-pays de l'Est qui va obliger les gens à savoir ce qu'ils doivent aimer ou pas aimer.
Ça existait dans les pays de l'Ouest aussi.
Ouais. Surtout dans les pays de l'Est. Quand on t'oblige à penser, c'est
dans les pays de l'Ouest,
c'est dictature surtout.
Ouais, il y en a eu dans les pays de l'Ouest. Hein, je peux t'en parler.
En dictature.
Oui.
Oui. Bien sûr, je sais qu'il y en a eu dans les pays de l'Ouest, notamment dans ton pays d'origine. Oui. Ok. on n'est pas obligé sans arrêt de parler du Portugal en permanence.
Non, mais on n'est pas obligé de parler sans arrêt des communistes non plus. Enfin, laisse Yann où il est. Il est très bien où il est, non?
Tu me parles de ça.
Mais parce que je te charrie, enfin.
Ah, bon, alors, ok. Bref, les dictatures, peu importe, où on t'oblige à aimer quelque chose ou à regarder quelque chose.
Avec toi.
Et le côté, limite, on va te filer mauvaise conscience si tu regardes pas la Coupe du Monde féminine. Ouais, ouais. Ça, non, pitié, ça,
non,
jamais,
non, non,
quoi.
Non, c'est vrai.
Et ouais, et pour continuer sur le propos de la ministre, elle dit, il faut populariser, faire du marketing autour pour que ça gagne en popularité. Et elle ajoute cette énormité. Ouais, il faut que les salaires se rejoignent. Elle va le prendre où l'argent? Elle va créer les revenus du foot féminin pour que ça puisse être redistribué aux filles. Non mais heureusement que Gaëtane Tinet, qui est une fille très intelligente, elle est très juste et l'a remise à sa place de façon très intelligente.
Il y en a beaucoup qui la remettent à sa place.
Évidemment.
Qui vont être les stars là?
Et d'ailleurs, les filles, elles ne sont pas comme ça. Les filles du foot, elles sont intelligentes et elles tombent pas dans ces attitudes stupides que de tous ces féministes qui veulent absolument nous faire regarder, ou si on veut pas regarder, c'est qu'on est des gros cons. Elles sont super tranquilles. Elles obligent personne. Elles vont faire leur petite vie et elles veulent nous passionner par leur performance. Ça me plaît et c'est pour ça que je vais les regarder, parce que franchement, j'ai découvert que c'était des nanas super.
Voilà. Et ce qui leur plaît aujourd'hui, c'est au-delà du foot, c'est qu'on s'intéresse à elles.
Voilà. Et elles sont super ces nanas.
Ou parfois gagner de l'argent, etc.
Alors qui sont les stars justement à venir de ce mondial du coup, Anthony?
Alors pour l'équipe de France, évidemment, si tout va bien physiquement, ça sera Eugénie Le Sommer, qui est la meilleure buteuse en activité de l'équipe de France, qui n'est plus qu'à 7 longueurs du record historique de Marinette Pichon, les 81 buts. Une Wendy Renard, la défenseure de l'Olympique Lyonnais, qui a tout gagné avec l'OL, qui est en grande forme, pourrait aussi faire une très grande compétition.
Henri,
terrain et capitaine, qui rayonne dans l'entrejeu, sur l'entrejeu depuis pas mal d'années, et qui arrive aussi à maturité. Dans les nations étrangères, une Alex Morgan, évidemment, la méga star américaine.
Qui est très engagée politiquement, elle aussi, d'ailleurs.
Elle est toujours là,
À Lyon, ça pourrait être aussi une...
Pourquoi ça n'avait pas marché à Lyon?
Bah, Lyon, il y avait aussi des petites problématiques marketing. Sa venue, ça n'a pas duré très longtemps. Ouais. Il y a eu une web série qui a été faite autour d'elle. Mais au-delà du fait
que Jean-Michel Aulas là,
marqué des buts, hein, à Lyon. C'était pas la catastrophe comme d'autres Américaines par le passé. Et puis oui, donc une Alex Morgan, ça sera aussi certainement une des stars du mondial. Peut-être Marta, la brésilienne, qui est en fin de carrière, qui est sur sa dernière Coupe du Monde, qui pourrait aussi faire une dernière pige assez exceptionnelle. De toute
façon,
Jennifer Marozan, meilleure joueuse de D1, trophée UNFP cette saison, l'artiste au niveau
de toute façon, c'est quoi,
milieu de terrain allemand.
C'est Allemagne,
États-Unis,
Brésil.
Non, moi je mettrais pas le Brésil dans les principaux favoris. Je mettrais évidemment les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, qui est une nation qui monte très fort.
Exact, c'est vrai.
Elles ont gagné la She Believes Cup, cette tournée américaine au mois de mars. Les Pays-Bas, qui sont quand même champions d'Europe 2017 et qui ont une génération assez intéressante. Et puis, évidemment, avec l'aspect domicile, l'équipe de France qui va jouer dans les principaux.
C'est quand même pas gagné d'avance, quoi.
Ah mais non, ça sera dur. Ça
déjà,
sera dur.
Comment tu veux avoir gagné une compétition comme ça d'avance, sachant que à l'Euro, même si c'est pas le même entraîneur, même si c'est pas la même base d'équipe, bah si quand même, c'est la base, elle est là, il y a quand même eu un échec incroyable. Hein.
Oui, mais là tu as eu un renouvellement, il y a 10 joueuses qui jouent leur toute première grande compétition.
Non, mais c'est pour ça, donc bon.
Il y a un truc qu'on fait pas. Pardon.
Anthony, il vient de me dire tout à l'heure que l'équipe de France travaillait avec Richard Ouvrard.
Oui,
c'est le préparateur mental de l'équipe de France de handball. Et moi je le connais parce que ça a été un de mes formateurs et je pense que c'est une très bonne recrue pour le staff.
Ouais, une très bonne réputation en tout cas.
Oui, oui.
Il est arrivé pendant la
première. Tiens les gars, on a retrouvé Hugo qui nous avait appelé au 32-16 pour parler de cette Coupe du Monde féminine. Salut Hugo.
Ouais, salut Esther.
Salut Hugo.
Ça y est, t'étais où là? Qu'est-ce que tu foutais là?
Ouais, non, ça avait coupé. Il y a eu un souci, mais il n'y a pas de problème. Ouais, je voulais juste revenir sur ce qu'avait dit l'autre auditeur justement par rapport à la Coupe du Monde féminine. Ouais. Moi, enfin, je trouve ça quand même hallucinant quand même de devoir qu'on se mette directement à les juger au lieu de les soutenir. Je veux dire quand même depuis le début de l'after, enfin le premier sujet quand même de l'after par rapport à la coupe, du monde féminine, c'était quand même surtout de savoir si c'était assez légitime pour être à l'égal des hommes ou non. Et on n'a même pas, j'ai reparlé de l'enjeu en lui-même, par exemple quoi. Enfin, ce que je veux dire là-dedans, c'est que oui, après je suis. C'est juste un problème de médiatisation. C'est pas juste un souci, par exemple, de comment dire. Enfin, c'est juste de la.
Oui. Hein? Oui.
Ouais, bah, attendez. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est pas une question de talent, mais c'est une question de médiatisation avant tout. C'est que là, par exemple, je veux dire, on dit toujours que forcément le foot féminin, ça attire moins que le foot masculin.
Oui.
Mais par exemple, la dernière Coupe du Monde. Aux États-Unis, c'est l'audience aux États-Unis a battu tous les records cette année par rapport à tous les autres matchs masculins, par exemple. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que
tu peux pas comparer les audiences aux États-Unis, le soccer aux États-Unis pour les hommes.
Moi, je dis par rien. On va encore dire que je
m'intéresse
aux auditeurs. Donc, à ce que représente
le foot ici en Europe. Dire, ça fera jamais les mêmes audiences, ça c'est sûr. Et après, c'est même pas la médiatisation, le talent, c'est la même chose, mais ça va beaucoup moins vite. C'est pas le même football. De toute façon, il faut pas le comparer comme le foot masculin. Sinon, franchement, tu regardes 5 minutes et t'éteins la télé. Donc c'est tout, c'est comme ça. Donc après,
il y a quand même une grande progression. Hein.
Il y a une grande progression. Après, c'est vrai que ça.
C'est la professionnalisation qui a fait ça.
Le rythme est complètement différent. Moi, je suis allé voir des matchs au sommet PSG Lyon, par exemple, où t'as les deux meilleures équipes françaises. Franchement, t'as du mal à tenir jusqu'au bout. Mais c'est tout. C'est comme ça. Je suis allé là. Les matchs avec l'équipe de France, l'Euro, je m'étais intéressé parce que j'étais à RMC déjà. On avait été tous déçus et déçus aussi du rythme, du moins de la qualité des matchs, pas que de l'équipe de France. Donc, oui, non, là, l'auditeur, je sais pas ce qu'il a voulu dire.
Eh ben, merci
non,
Hugo, en tout cas, de nous rappeler.
Hugo, en fait.
Merci Anthony d'avoir été avec nous.
Avec
merci
plaisir,
pour
messieurs.
Toutes ces infos. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, on parle prépa mental. T'es prêt ou pas, Raphaël?
Ouais, je suis prêt.
T'as pris des notes sur chacun d'entre nous ou pas?
J'ai pris des notes tout à l'heure.
Pour embarquer Daniel.
Le petit débat entre Daniel et Jérôme, là.
Je peux dire que t'es pas bien, là.
Je vais voir si je peux les mettre d'accord.
Bah alors là, réponse juste après ça. Bon courage.
RMC. L'afterfoot. Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Jérôme Rotten, de Daniel Riolo avec Raphaël Pesanti, préparateur mental. Juste vous dire, parce que ça vient de se terminer, que les Pays-Bas se sont imposés face à l'Angleterre 3-1 dans la demi-finale du Final Four de la Ligue des Nations. Alors la victoire aux prolongations 3-1 pour les Pays-Bas qui affronteront dimanche en finale de ce Final Four le Portugal. Voilà, pour la première édition de cette Nations League.
C'est où la finale?
Porto. Stadio do Dragão.
Dragon.
Là, on est allé d'ailleurs. Les deux.
Magnifique.
Commenter un, c'était quoi, un classico, je crois.
Bah oui, Porto Benfica. Ouais, ah, je me déplace pas pour rien.
C'est vrai. On a fait un petit tour dans le musée d'ailleurs. Tu te souviens?
Oui, ils étaient très contents.
Si t'étais là d'ailleurs.
Ouais, ils étaient très contents de me voir.
Oui, c'est bon.
Confirme.
Mais c'est bon en plus.
Voilà.
Ouais, t'étais un bon souvenir.
Magnifique.
Pour eux. Raphaël Pesanti, préparateur mental, est donc avec nous dans l'after ce soir. Juste Raphaël, tu peux nous présenter un petit peu ton parcours tout d'abord. Comment t'en es arrivé là finalement? Comment
tu deviens préparateur mental? Pour mon parcours de préparateur mental est un peu particulier parce que à la base moi je suis ingénieur.
Ah ouais, rien à voir. Ah ouais.
Donc rien à voir. Donc j'étais anciennement manager dans l'automobile. Et j'étais pas, on va dire, j'étais pas heureux dans ce que je faisais. Et j'ai décidé il y a 5 ans de revenir à la base, quoi, à ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire le sport et puis l'humain en général. Donc c'est comme ça que j'ai décidé il y a 5 ans suite à mon propre coaching. Donc j'ai été coaché dans ma boîte. Et au bout du deuxième séance, je savais que j'allais quitter la boîte. Donc
ah ouais, t'as une révélation.
Voilà. Non, c'était pas une révélation parce que j'y ai pensé tout le temps. Moi, j'ai toujours été joueur de foot. Bon, j'ai fait un sport études, j'ai jamais joué à un haut niveau, mais je joue encore. Mmh. C'est pour ça que je voulais me faire drafter, mais bon, ils veulent pas.
Ah, ça, faut que tu t'arranges avec eux, ça.
Ah, pourquoi pas. On peut y avoir une place. Attends,
non, c'est sûr. Daniel est preneur. Hein. De toute façon, tu sais, là, il est un peu dans la merde, là, donc.
Mais moi je suis pas du tout vénère, mon équipe elle est géniale, c'est juste que voilà, il y a un Fiorès et je m'attendais pas qu'il
on finira la draft tout à l'heure. Jérôme Thomas, t'embrasse hein, Fabrice.
Et donc je suis revenu en fait à ce qui me fait vibrer, me reconnecter à ce que j'avais envie de faire vraiment réellement depuis que, enfin.
T'as été éducateur, je crois, dans le foot, non?
J'ai été entraîneur, mais en Espagne, parce que j'ai vécu 10 ans en Espagne.
T'étais où?
Donc, j'étais en Galice.
D'accord. Ah ouais, sympa. T'étais où?
J'étais près du Portugal, surtout à Vigo.
Ah, c'est sympa.
Ouais. Donc ouais, la Galice c'est très joli.
Ouais, c'est magnifique.
On mange très bien.
Il pleut tout le temps.
Mais... Non, c'est très beau l'été. Mais tu rigoles ou quoi? L'été c'est extraordinaire. Oui. Ah ouais, vraiment.
Comme au Portugal.
Ouais.
Et donc voilà, je sais pas où j'en étais du coup.
Tu disais que t'avais eu ce fameux, t'avais été coaché toi-même.
Déclic en Espagne.
Oui, c'est pas forcément un déclic, mais c'est quelque chose auquel je pensais depuis tout le temps. Et donc je me suis décidé il y a 5 ans suite à mon coaching qui m'a vraiment révélé
Donc t'as fait une formation tout ça derrière?
Donc j'ai fait une formation. Donc j'ai fait un CIF, ce qu'on appelle un congé individuel de formation. Donc ça permet de faire une formation pendant un an et d'être payé par ma boîte. Et donc suite à ce CIF, donc j'ai fait un master 2, je suis rentré directement en master 2 en STAPS à Dijon. Et j'ai fait en parallèle, donc le master, c'était un master de management et ingénierie du sport. Et en parallèle, j'ai fait un DU de coaching et préparation mentale. Et c'est dans ce DU que j'ai été formé, entre autres, par Richard Ouvrard, dont on parlait
le préparateur mental de l'équipe.
Et tu t'es rendu compte à ce moment-là, pour entrer dans le vif du sujet, que de plus en plus de sportifs, même dans les sports collectifs, avaient besoin de ce genre
pas
de...
Pas seulement les sportifs, les entraîneurs aussi, le staff, je pense aussi, a besoin.
Oui, non, mais le club, on va dire, voilà. Je veux dire plutôt.
Parce qu'en fait,
avait besoin de ça.
On a des exemples en Ligue 1 sur des entraîneurs comme Christophe Pélissier ou Guillon à Reims. Ils sont suivis par des coachs et on voit les résultats quand même parce qu'ils ont quand même pas des budgets énormes. Mais
les deux même... sites, ils sont bien, bien sûr.
Bonne réponse. Et donc Christophe, pour l'avoir interviewé, il travaille avec un coach. Il le voit deux fois par semaine.
Ah oui.
Donc pas forcément pour lui, peut-être pour lui au départ, pour se manager. Parce que moi je dis toujours, il faut se manager soi-même pour pouvoir manager les autres. Donc certainement qu'il a travaillé sur lui au départ, mais après ça l'aide à gérer ses joueurs, son staff.
D'accord.
Et tu travailles sur quoi concrètement quand c'est comme ça?
Bah tout dépend des cas. Je peux pas te moi pour un. Par exemple, si je prends un exemple d'un joueur, j'avais travaillé avec un joueur où son problème à lui, c'était quand il commençait à rater une occasion, une autre, il sortait du match. Donc après, il faut travailler sur comment on fait pour rester dans le match. Travailler sur son discours interne, travailler sur ses émotions et des choses comme ça.
Et toi, aujourd'hui, tu préconiserais que
tous les clubs de Ligue 1 et au sein du staff, dispo, un mec dispo, quoi. Un mec qui est là pour les gars qui ont besoin.
Je préconise rien, mais tout dépend les clubs, tout dépend du... Ce que je préconise, s'il y a un préparateur mental dans le staff, ça doit venir de l'entraîneur. Donc c'est l'entraîneur qui est le boss, ça reste le boss.
Tu veux dire que c'est l'entraîneur qui doit dire on a besoin...
C'est lui qui doit le dire, c'est lui qui doit donner les directives, c'est lui qui doit le choisir comme il choisit un prépa physique dans son staff.
Non mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est plutôt imagine, tu vois, moi je suis dirigeant de club, je suis président du club, je structure mon club avec mon directeur sportif, mon coach sportif, à dispo dans le club un coach mental et les joueurs. Sans que le coach me dise j'en ai besoin ou pas besoin, il y en a un qui est là.
D'accord.
C'est comme des entreprises où t'as le bureau, et qui veut y aller veut y aller.
Il y a deux choses différentes. Toi tu parles de coach pour les joueurs individuellement.
Comme dans Billions.
Pour les joueurs individuellement, le club peut mettre à disposition un préparateur mental. Ça je le vois. Mais par contre, s'il travaille directement dans le staff sur le groupe, il faut que ça soit porté par l'entraîneur. Sinon c'est pas possible. Parce que en fait,
moi je trouverais ça bien que dans chaque club il y a un mec.
Il y a une possibilité. Mais il y a pas des coachs qui font ce staff là déjà aussi.
Non, normalement ça peut pas être le même.
Non, je sais pas, je demande. Tu connais des coachs toi qui ont cette capacité ou pas?
Les coachs ils doivent avoir des notions par contre.
Ah oui.
Ils doivent être formés.
Ils sont formés là-dessus?
Non, pas tous. Ouais. Parce qu'en France, moi ce que je dis, puisque j'ai fait quand même une série d'interviews, je sais pas si on va en parler après. Ce que disait notamment Eric Carrière dans l'interview, c'est que, et je suis tout à fait d'accord avec ça, en France il y a beaucoup de bons entraîneurs, mais il n'y a pas forcément beaucoup de bons managers.
Comment ça?
Il y a des bons entraîneurs, mais pas forcément des bons managers.
C'est encore dans le management humain.
Dans l'humain.
Ça, je suis absolument
les bons
d'accord.
entraîneurs, c'est-à-dire au niveau tactique, technique, ils sont très bons.
Je suis absolument d'accord. Ça,
parce qu'on a une bonne formation de coach. Après, il manque pour moi pas tous parce qu'il y a des bons managers aussi. Il y a quand même peut-être certains qui manquent à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'il y en a qui ont décidé de se faire aider. Et c'est pas une faiblesse de se faire aider.
C'est encore trop analysé comme ça.
Je pense que c'est encore trop analysé comme
quelque chose de faible.
Je pense que les entraîneurs ils ont peur de perdre la main parfois.
Bah ouais.
Et ils pensent que c'est une faiblesse. S'ils prennent quelqu'un dans leur staff, ils pensent que c'est une faiblesse. Et pour moi, c'est pas une faiblesse. C'est à eux de choisir.
Non, c'est un complément. Est-ce que t'as enquêté pour savoir si, par exemple, dans des clubs à l'étranger, dans les championnats à l'étranger, cette fonction était remplie auprès des clubs?
Oui.
Par...
Moi, je suis dans les gros clubs. C'est le championnat belge. Mais dans le championnat belge, ils ont peut-être pas les moyens qu'on a en France. Donc, ils se donnent les moyens pour être plus forts. Une des choses qu'ils font, c'est qu'ils intègrent dans le staff un préparateur mental. Je suis allé au Cercle de Bruges, par exemple. J'ai interrogé David Vigne, donc qui travaillait avant National. Il était adjoint au Cercle de Bruges.
C'était Guyot, l'entraîneur.
Voilà, c'était Guyot. Ouais. Et il m'a dit que dans le staff, quand ils ont intégré le préparateur mental, ils ont vu un avant et un après.
D'accord.
Donc après, je dis pas que ça fonctionne systématiquement, parce qu'il y a eu des mauvais aussi. Donc,
tu penses que ça devrait être intégré aujourd'hui à la politique sportive d'un club?
Je pense, oui. Tout à l'heure, je voudrais peut-être revenir un petit peu sur le PSG.
Vas-y.
Tout à l'heure, vous parliez du PSG, et puis moi, j'ai trouvé que vous, enfin, ça c'est mon avis. Hein, j'ai trouvé que vous restiez surtout sur les joueurs. Mais pour moi. Peut-être que le problème, il se situe bien plus haut au PSG, au niveau de l'identité du club et des valeurs, ce que t'appelles pas l'autorité.
C'est ce qu'on dit très souvent dans l'after.
Oui, mais tout à l'heure on en a pas parlé. Donc, quand tu parles de l'autorité, moi je parle de valeurs. Neymar au Barça, ça marchait pas comme ça. Enfin.
Bah, je l'ai dit, il était pas entouré de la même façon et l'institution club est plus incarnée, plus forte.
Et donc à Paris,
bien sûr.
Un club qui a des valeurs et une identité, c'est pas la même chose que. En fait, ça doit venir du haut, et puis après, il faut d'un président
qui fait respecter certaines règles et valeurs.
Pour moi, je pense que ça doit venir du haut et prendre des personnes
bien sûr.
Qui incarnent ces valeurs-là.
Ben, je suis absolument d'accord.
Et après, intégrer les joueurs.
Ouais,
les joueurs aussi doivent être intégrés. Ils doivent comprendre les valeurs
pour répondre à ta question, moi, mon expérience de joueur, quand j'arrivais dans des grands clubs européens, quand tu vas en déplacement, tu rentres. Une façon d'arriver au stade, tu vois, tu t'as ce fameux, pas le tapis rouge, parce que le tapis rouge c'est au Parc des Princes, mais sinon t'arrives, et ben t'as rien que l'odeur et ce que tu ressens quand t'arrives, tu sais que là il y a une institution, et ben c'est ça qu'il faut trouver au PSG, ils l'ont pas encore. Tu vois, t'as pas cette impression.
Et pour moi,
ça, la différence, elle est là.
Mais d'ailleurs, tu bosses avec des dirigeants ou pas aussi?
Avec des entraîneurs.
Mais pas au-dessus?
Non.
Mais tu penses que certains en auraient besoin aussi ou pas? Parce que c'est des responsabilités aussi.
Il y a des dirigeants en entreprise qui travaillent avec des coachs. Je vais revenir sur Eric Carrière. Il a une boîte maintenant. Il travaille avec un coach. Son coach travaille avec lui, travaille avec tous ses employés. Pour améliorer la communication entre eux. Ils ont fait le profil de chaque employé avec un outil qui s'appelle la ProcessCom, et chaque employé connaît le profil de l'autre. Donc, tu sais qu'avec cette personne-là, tu vas devoir être plus dans l'empathie parce que c'est un profil empathique. Et quand tu connais les profils de chacun, c'est beaucoup plus facile pour communiquer. Bon, ça peut paraître un peu compliqué là parce que on n'a pas assez de temps pour développer, mais lui, ce qu'il a fait pendant sa carrière, c'est qu'à le dire, il l'applique à son entreprise. Donc lui, il a été suivi tout au long de sa carrière.
C'est vrai que lui, c'était un des premiers à avoir. Donc,
les dirigeants d'entreprise, oui aussi. Il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui ont des coachs. C'est pas seulement parce que le coach, il a une meilleure approche que lui. C'est pour lui faire prendre de la hauteur et le faire sortir, parce que quand t'es focus à fond sur ton sujet, quelqu'un qui te fait prendre de la hauteur et qui te permet de réfléchir à des choses auxquelles tu vois pas parce que t'es complètement dedans, c'est important aussi.
Alors, c'est vrai que tu disais, t'as rencontré Eric Carrière, t'as rencontré Pélissier, ça fait partie des entretiens qui sont sur ton site d'ailleurs, hein, oui. RaphaëlPesanti.com. T'as vu Olivier Frappoli aussi, qui est le nouvel entraîneur de Laval, Pascal Gassien également, qui a été élu entraîneur de la saison en Ligue 2 aussi. Qu'est-ce qui leur ressort justement? Ils te disent quoi par rapport à ça? Comment ils appréhendent cette matière?
Là, c'est un petit peu ça. Je vais faire la synthèse de tout ça, et puis je vais faire un petit bouquin destiné aux entraîneurs, à tous les entraîneurs. Où ils auront un petit peu la synthèse de ça, plus une analyse que j'aurais faite. Et qu'est-ce qui revient de tout ça, c'est que par rapport au management de ce qui se faisait avant, le management directif, c'est fini. Maintenant, il faut être plus dans l'humain, plus dans l'écoute, plus impliquer les joueurs. Moi, je sais pas à ton époque comment c'était, mais maintenant, un joueur qui n'a pas de sens, c'est-à-dire si on lui donne pas le sens,
il faut lui expliquer,
il faut l'impliquer. Il faut beaucoup plus communiquer. Ce qu'il en ressort aussi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de pression sur les entraîneurs. Ça, ils m'ont tous dit qu'ils ont beaucoup de pression. Donc, travailler avec quelqu'un qui peut les aider à gérer la pression, je pense que c'est aussi important. On n'a qu'à voir. Maintenant, on voit des burn-out chez les entraîneurs. On voit des entraîneurs qui font des arrêts cardiaques.
Et quand tu as vu par exemple la saison du PSG et l'énième fiasco en Coupe d'Europe, tu t'es dit que là il y avait des faillances de ce côté-là?
Bah moi je me suis dit, après c'est que mon avis, et puis il faut bien je veux bien prendre des précautions par rapport à ça. Moi je le vois de l'extérieur. Hein.
Ouais, d'accord. Ouais, t'es pas dedans donc.
Je suis pas dedans, donc moi je me suis dit que peut-être quand Manchester a marqué, les images du Barça sont revenues dans les têtes. Si le traumatisme après.
Dans certaines têtes, il y avait beaucoup qui étaient pas là.
Oui, mais si le traumatisme, il n'a pas été géré avant.
Ouais.
Il demande qu'à ressortir.
Ça, c'est vrai.
Un truc qu'on enfouit et qu'on traite pas, et ça demande qu'à ressortir. Après, c'est mon avis de l'extérieur, hein. Il faut prendre les précautions par rapport à ça. Si ça se trouve, ça a été traité, et puis, ça a rien à voir. On peut pas savoir.
Non, ça l'a pas été. Ça l'a pas été parce que à chaque fois, les explications ont été dans les deux cas
l'accident.
C'était un accident.
Oui, voilà. Les fameux.
En fait, quand on veut pas mettre le mot, c'est aussi un problème quand on veut pas mettre les mots sur la.
C'est justement, il faut mettre des mots dessus, il faut en parler, il faut le conscientiser. Une fois qu'on l'a conscientisé, déjà, on a fait la moitié du travail.
Mais quand il y a un traumatisme, de toute façon, pareil, là, on parle de PSG Manchester, moi j'ai commenté le match, j'ai ressenti.
T'as ressenti?
L'atmosphère, tu vois, monter, et je le dis aux commentaires en début de deuxième mi-temps, je dis si le PSG n'arrive pas à marquer, attention, parce que.
Au moment du but, t'as ressenti ou avant?
Avant. Et tu sentais un environnement particulier, et je pense que quand t'es joueur, pas je pense, parce que après t'essayes de te mettre à leur place, ce qu'on a vécu sur le terrain. C'est vrai que quand t'es au milieu sur le terrain, t'as une pression qui est énorme, encore plus sur ces matchs-là, des matchs à élimination directe, et tu le sens mine de rien que ça tourne mal, ça peut mal tourner, et en plus de ça, t'as un contexte autour où tu sens que les gens sont aussi paniqués. Et c'est là-dessus que je pense que le travail pour les joueurs, il est, ton rôle est essentiel pour certains joueurs, parce que il faut essayer de faire abstraction de tout ça, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont beau avoir le talent, tout le talent et l'expérience qu'ils ont, ils ont tous plongé en même temps.
Si ça n'a pas été traité, ça aurait dû être traité, mais en amont. Mmh. La veille du match, ça sert à rien. C'est pas
non.
Les préparateurs mentaux, ils sont pas, c'est pas des magiciens.
Ouais.
Donc ça demande un travail sur, sur le long terme.
Mais justement, tu bosses sur combien de temps? C'est quoi? Alors tu vas me dire, ça dépend du problème.
Mais... Ça dépend, mais. Je vais donner un exemple, enfin un contre-exemple plutôt. Un jour, il y a un directeur sportif qui m'a appelé et il m'a demandé, il nous reste deux matchs. Je vais pas le citer, il se reconnaîtra peut-être, mais
on l'embrasse d'ailleurs.
il reste deux matchs et il nous faut trois points. Qu'est-ce qu'on peut faire en prépa mentale? Je lui dis, l'entraîneur est au courant? Il me dit non. Je lui dis, ben normal, sans l'entraîneur déjà, on peut pas faire grand-chose. Donc un peu pour lui dire que c'était un petit peu osé ce qu'il me demandait, je lui dis, il y a deux solutions. Soit l'entraîneur, on le prévient et puis on essaye de faire quelque chose en trois semaines, ce qui est pas garanti, même de toute façon c'est jamais garanti, hein, mais normalement il faut un peu du temps quand même. Ou soit il faut virer l'entraîneur. C'était juste pour le mettre en face de de ce qu'il me demandait, quoi. Je savais bien qu'il allait pas virer l'entraîneur, mais en général, un travail en individuel sur un joueur en moins de 6 mois, c'est Tout dépend la problématique. On peut faire des prises de conscience sur des périodes courtes, mais en général.
De certains joueurs au PSG, je te conseille pas d'y aller parce que là, c'est pas 6 mois. Hein.
Ah bah Thiago Silva, il faut 6 ans lui.
Ouais.
Mais il y a quand même, en général, il y a plus de travail à faire avec le staff et les entraîneurs que les joueurs. Si on revient au PSG, Tuchel, moi, je pense qu'il est très bon manager.
Leonardo, tu veux dire?
Non, Tuchel,
il est très bon manager. Après, en fin de saison, je pense qu'il aurait peut-être pu être aidé. Et puis, parce que est-ce que c'est bien d'aller devant la presse et puis
lui, il a chassé immédiatement tout problème mental. Immédiatement, il était même virulent.
C'est possible.
Par rapport à ça, il était.
C'est lui qui dit le mot accident.
Étonnamment virulent.
De l'extérieur,
j'arrête parler d'accident, ouais, de choses. Il ne voulait. Justement, qu'il en faisait trop.
Bah, il refoulait.
On ne pouvait pas en parler. Il refoulait.
De l'extérieur, j'ai pas vu ça. Après, je suis pas dedans, encore une fois, mais.
Mais c'est pour moi, lui, pour le coup, est très expressif. C'est-à-dire, il a vraiment, tu sais, bon, alors toi, tu connais ça mieux que nous, mais l'expression corporelle, la gestuelle.
Ça s'est vu en fin de saison. Il s'énervait sur le banc. Il s'énervait en conférence de presse.
Il bouge beaucoup. Il se gratte l'oreille.
Il a changé son management. Et il a.
Oui. Alors que pour moi, il avait le bon début de saison. Je pense que Neymar, il a plutôt bien géré au début de saison. Mais moi, il a pas été aidé par.
Merci de me donner raison.
Par plus haut, non.
Oh, c'est reparti. Pèse dans la machine.
Non, j'aurais pas dû dire ça.
Non, mais ça fait plaisir.
Non, mais il y a eu deux saisons en fait au PSG, je pense.
Merci beaucoup, Raphaël, en tout cas. Bah, je rappelle ton site, raphaelpesanti.com. Voilà, aucun lien toujours. Il y a toutes tes interviews, oui. Les gens peuvent te contacter là, alors s'ils veulent faire appel à tes services.
Oui.
Donc tu bosses dans le domaine du sport, mais pas que. Hein.
Pas que, non. Je travaille en entreprise et puis dans le sport, pas que dans le foot. Donc j'ai dans le cyclisme aussi, des hockeyeurs aussi à Amiens. Et c'est mon dernier mot là.
Ouais. Non, mais tu veux rester pour la draft ou pas?
Ouais, je veux bien rester. Non, mais alors, juste passer un petit. Moi, je joue encore au foot, donc je voulais passer un petit bonjour à mon club du FCA, le FCA Alboussière. C'est un grand club district de l'Ardèche.
Très bien, bah okay, c'est, fait. Voilà. C'est bon. Fait. Mais tu restes avec nous en tout cas, ouais. Raphaël.
Merci.
Dans quelques instants, la suite et la fin de la draft. Parce que lundi, à partir de 20h au Stade Bauer, il y aura la team de Riolo contre la team de Rotten. Ils ont déjà fait leurs deux premières séries de draft. Et bah c'est la fin ce soir.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Daniel Riolo, de Jérôme Rotten et de Raphaël Pesanti, qui est préparateur mental. On vous rappelle son site, hein, raphaelpesanti.com. Voilà, si vous voulez, vous avez besoin d'aide. On passe à la suite et à la fin de la draft, mais si on vous rappelle, lundi soir à partir de 20h au Stade Bauer, vous êtes tous les bienvenus. Vous allez soutenir soit l'équipe de Daniel Riolo, soit l'équipe de Jérôme Rotten. Je vous rappelle la team de Riolo pour l'instant. Périnel, Kevin Diaz, Leboeuf, Steve Marley, Julien Laurent, Oussem Loussaïef, Olivier Giroud, Jean-Louis Tour, Stephen Brun, Laure Lepailleur, Arthur Robert, l'un des producteurs de l'After, Pape Mané qui est un auditeur, vous savez que vous pouviez également participer sur le hashtag RMC Live, Brahim Asloum, Yassine Amened. Du côté de la team Rotten, pour l'instant on a Benoît Chéroux,
ouais.
Michael Siani, Aubragnac, olé. Mavouba, olé. Duga, olé. Ducrot, olé. Charbonnier, olé. David Bellion, olé. Jérôme Thomas, notre très cher producteur.
Fiorez?
Oui, Fiorez, ouais. Pierre Dorian, Pierrot. Denis Charvet, Jean-Christophe Drouet, qu'on embrasse, Marinette Pichon, Anis Hamdoun, qui est un auditeur, là aussi. Messieurs, est-ce que je disais, jingle pour la suite et la fin de la draft. Hurry inside! Yeah! Alors, qui commence ce soir?
Allez, je suis tellement bon joueur que je laisse la primeur à Daniel.
J'adore cette zine. Daniel.
La draft.
Tu as la suite de la liste. Vas-y.
Alors, mon premier choix ce soir, c'est Julien Beneteau.
Très bien. Julien Beneteau, bon joueur, paraît-il d'ailleurs. Ouais. Beneteau dans la team Riolo.
On va être ravi de jouer avec toi. Je vais te dire.
Il y en a un que vous avez pas encore pris, qui est un super joueur.
Ah, mais il dit rien, toi.
Anthony Quintela.
Ok. Anthony Quintela dans la team Rotten.
C'est qui le super joueur?
Ah, bah, moi, j'ai souvent joué avec lui. Je peux te dire que c'est un sacré joueur. Bah, je suis étonné qu'il soit dans la dernière de la draft. Hein, je te le dis.
Vas-y.
Ah, bah, vous le connaissez. Tu le connais très bien.
À mon tour maintenant, bah, je vais prendre Flo.
Ah, bah, voilà. C'est lui dont je parle. C'est un super joueur, Flo.
Flo qui?
Gautreau. Ah, Gautreau, je joue bien. Jérôme Thomas, il joue pas bien, Gautreau.
Et tu veux bien laisser des U?
Bah, bien sûr, merci.
Hein? Tu veux laisser des U en dehors de nos conversations?
Il va lui filer tous les blasts du monde, le mec.
Écoute, ça va lui faire énormément plaisir.
J'imagine.
Adrien Aigouin.
Adrien Aigouin. Dans la team Rotten. Daniel.
Le moment est venu de prendre François Pinet.
François Pinet dans la team Riolo. Bon joueur, François également, qu'on l'embrasse. Jérôme.
Écoute,
le moment est venu pour toi de penser à ceux qui doivent couper les...
Il reste Sacha Tavolieri, Jordan Prieto qui est un auditeur, Mehdi Bala, David Lortolari, Jonathan Bacardi, Simone Rovera, Frédéric Zermati.
Je vais faire plaisir à l'auditeur, Jordan Prieto.
Jordan, dans la team Rotten. Daniel. Qui va terminer dernier?
Mehdi Bala doit avoir une condition physique qui va lui permettre de tenir un petit peu quand même.
Mehdi Bala dans la team Riolo. Bon, ouais. Jérôme.
Écoute,
il nous reste qui là?
J'ai oublié. Il reste Sacha Tavolieri, David Lorto,
il y en a, j'ai pas
Macardi,
j'ai pas du
Rovera
envie de les prendre.
Donc je vais pas Jonathan.
Je vais prendre Sakai.
Sakai. Rotten. Dans la team Rotten. Il est très fan d'ailleurs de Sakai, Jonathan.
Il reste qui là?
Il reste Sacha, Lorto, Rovera, Zermati.
Oh là. Et Adrien?
Ça y est, il l'a pris, Jérôme.
Oh non, Adrien, c'était mon ambianceur. J'avais prévu de le prendre comme ambianceur de vestiaire.
Lui, il veut tout.
Alors, je vais prendre Sacha.
Eh ben, Sacha Tavolieri. Ah. Dans la team Riolo. Il reste donc Lorto, Rovera, Zermati. Il y a deux drôles de dames dans les trois derniers de la draft, hein, quand même. Ça la fout mal. Hein.
Bah, écoute, il y en a un qui est pas du tout affûté.
Il y en a un qui l'est trop.
Souvent.
Il a un peu abusé.
Il a bouffé. Ouais. Ouais. Et puis bon, il est pas très inspiré en ce moment quand même. Je vais prendre.
On va prendre David et je prends Simonet. Allez.
Il reste Zermati, les gars.
Fred Zermati.
Ok, ah, les salauds, il laisse les deux en dernier.
Je prends Simonet.
Simonet, on verra. Donc...
Si tu voulais prendre David, prends David.
Écoute. Les bâtards. Les salauds.
Non mais franchement. Tu veux qu'on fasse un échange sur Simonet et David? Parce que de toute façon, là, c'est pas les ambianceurs.
Et en option, en mercato de dernière minute, je prends Raphaël Pesanti.
Ah, bah Raphaël, voilà. Ah, mais...
Allez.
Je pourrais être là. Alors, Jérôme me dit s'il y a un désistement. Il y en aura certainement, d'ailleurs.
Lundi soir, tu peux.
Ah, bah là, t'es obligé. Maintenant, l'invitation. Elle est lancée.
Allez.
Bah ouais.
En plus, okay. Il va falloir que tu bosses dans la boîte parce que on a un problème avec Gilbert Bribois, donc là, il va falloir que tu le gères.
Jérôme est en train de me pourrir dans l'oreillette en me disant, on a le nombre de maillots est limité, c'est s'il y a un désistement.
D'accord.
De toute façon, t'es le bienvenu, hein.
Mais,
et Laurent.
Je dis d'avance, moi, il faut que je vienne d'Ardèche, hein.
Ah ouais, tu viens de loin, toi. Ouais.
Et, Laurent.
J'étais là cette semaine, là, mais pour.
Ah, tu dois rentrer, là.
Tu rentres
là, problématique, alors, quand même.
Mais bon.
Compliqué.
Éventuellement.
Jérôme me dit, on va gérer ça en rentaine. Ne raccroche pas.
Si j'ai une place de titulaire, éventuellement.
Bah, tu vas gérer ça. Raphaël, tu vas gérer ça avec Judas.
Oh, les mecs, ils sont...
Je le connais pas.
Judas, c'est Judas.
Judas, non, il a
Jérôme me dit, si je suis Judas, ce sera non. Ah, il le prend mal, hein.
Il est pas dans mon équipe, j'ai un voir avec lui, hein.
Les gars, merci. Je vous remercie pour cette saison également, parce qu'on va pas se revoir avant un petit moment. Voilà, les gars, je me fais opérer mardi au croix des croisés, et puis derrière, je suis
ça fait genre de foot, hein.
Ouais, franchement, je peux te dire, je me suis fait
un bon foot. Donc, la réduc, c'est où? C'est,
ouais, pour l'instant, je préfère pas me prononcer, je pense qu'il faut prendre les jours les uns après les autres.
Tu vas pas être
Tigne. L'important, je reviendrai plus fort que jamais. Alors, moi, Tigne.
À fond romeux.
C'est pas les trucs comme ça.
Voilà.
Merci les gars, merci Daniel, merci Jérôme, merci beaucoup Raphaël
d'être venu. Bonne opération, bonne réduction.
Bon, Nico, bonne réduction.
Merci les gars.
Bonne opération d'abord. Bonne opération, ça va, c'est tranquille.
Ouais,
c'est moi qui l'a fait, je crois, donc ça va bien se passer. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales, bisous. Et à demain, on sera là demain. Ciao.
Sans genoux, mais on revient.
RMC, l'After Foot.